Le docteur David Lucier est gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Bonjour, docteur Lucier.
Bonjour.
Merci de prendre le temps de nous parler. Vous avez eu la COVID-19 et vos enfants aussi. En fait, il y en a un seul de vos quatre enfants qui ne l'a pas eu. Votre conjointe l'a eu. Racontez-moi le début. Quand avez-vous su que vous aviez été contaminé?
Mais en fait, moi, j'ai eu mon résultat parce que c'était un test de dépistage. C'était le début. Donc, on avait, là où je travaille, plusieurs patients qui étaient positifs. Moi, j'en avais pas eu comme tel jusqu'à la veille ou presque là, du moment où j'ai appris que j'étais positif. Puis, on a passé les tests de dépistage là, pour tous les employés de l'institution ouais. le samedi matin. Puis, j'avais pas de symptômes à ce moment-là. Les symptômes sont apparus plus tard, là, à peu près au même moment où j'ai reçu mon résultat de test là, qui était le lundi. Donc, c'est après ça que les symptômes ont commencé.
Puis, sur oui, vous avez eu l'occasion de même d'aller à Tout le monde en parle, ne sachant pas encore que vous étiez positif. Ça a dû vous créer une petite frayeur d'avoir contaminé d'autres gens.
Oui, disons que c'était pas la. C'était un très mauvais concours de circonstances mm-hmm. que tout ça soit arrivé en même temps. Puis, j'avais aucun symptôme, donc, j'avais aucune idée que je pouvais avoir la maladie à ce moment-là. Mais sur l'unité où je travaillais, on est. Au moins une cinquantaine probablement là, à l'avoir attrapé.
On sait qu'il y a des gens, docteur Lucier, qui l'ont légèrement. Il y en a d'autres qui l'ont vraiment très fort. Et vous travaillez avec des personnes âgées. Donc, vous êtes à même de nous dire que, puis on l'a bien vu, là, que les gens âgés sont plus à risque, beaucoup plus à risque que les autres. Mais on voit aujourd'hui que les facteurs de transmission aujourd'hui, c'est vraiment le communautaire. Puis c'est beaucoup des jeunes, des clientèles plus jeunes là, qui le passent à d'autres. Vous avez été frappé comment par la COVID? Vous l'avez-vous eu difficile? Ou ça, c'est...
Pour moi, ça a été relativement facile dans le sens où j'ai eu des céphalées, beaucoup de fatigue qui a duré une semaine environ. Donc, parmi les personnes que je connais, j'ai probablement été dans ceux qui ont été le moins malades. Il y a beaucoup de gens au travail, il y en a plusieurs qui ont été hospitalisés. J'ai un collègue qui est presque allé aux soins intensifs. On a des employés, nous, qui sont allés aux soins intensifs. Donc, il y a des gens qui ont été très malades. Et ce qui est très difficile avec cette maladie-là, c'est que certains ont presque rien, comme moi. D'autres ont une maladie très sévère, puis on peut pas le savoir, on peut pas le prédire à l'avance. Donc, deux personnes totalement semblables avec les mêmes facteurs de risque, un peut être très malade et l'autre avoir une forme relativement bénigne. Donc, on peut pas se rassurer du fait qu'on soit jeune et en santé pour dire qu'on va être peu malade.
Ouais. Quelqu'un m'écrivait l'autre jour, on peut-tu arrêter de faire peur au monde avec ça? Tous ceux qui devaient mourir sont morts, puis c'est tous des gens de 70 ans et plus. Au-delà de ce manque d'empathie évident de quelqu'un qui écrit ça, il y a quand même des gens qui partagent cette idée. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer de les convaincre que non, ce n'est pas juste une maladie de personnes âgées à la veille de mourir qui serait mort de toute façon?
C'est ça, c'est bien. Il y a plusieurs réponses à ça. Premièrement, même s'il y avait des gens qui étaient effectivement à la fin de leur vie, ils sont morts, puis Dominique Champagne le décrivait assez bien tantôt aussi, ils sont morts dans des circonstances qu'on souhaite à personne, c'est-à-dire très malades, puis la mort de la COVID, c'est pas une belle mort du tout, et souvent privés du contact de leurs proches, donc ça c'est un argument, et aussi qu'il y a des gens jeunes et en santé, même si on acceptait comme argument ce qu'on veut pas, là, que c'est quelque chose qui touche seulement les personnes âgées, c'est pas vrai. Parce que c'est vrai que le nombre de décès est beaucoup plus faible chez les personnes plus jeunes, mais il y a quand même des personnes jeunes qui décèdent et qui sont très malades. Puis même si on décède pas de passer deux semaines aux soins intensifs intubés sur un respirateur, c'est pas quelque chose que personne a dans son plan de vacances.
Voilà, et justement, ça m'amène à donner la parole à Rachel, une auditrice, parce que Rachel, vous avez la jeune soixantaine. Vous avez même été intubée, ce que vient de nous dire le docteur Lucie, vous l'avez vécu. Soins intensifs, ça a été assez difficile pour vous, Rachel?
Oui, moi, c'est au mois de mars, finalement, dans les débuts là, de la pandémie. Je suis quelqu'un qui a déjà travaillé dans le milieu hospitalier, donc j'avais beaucoup d'appréhension quand on a annoncé tout ça qui s'en venait. Chez moi, les précautions, fallait faire attention, je m'équipais pour. Puis j'étais quelqu'un qui faisait du jogging, ça fait des années, qui m'entraînait, qui était en santé, pas de comorbidité. Et puis, au mois de mars, ce qu'on pense, c'est que ma fille, je lui dis, ben, viens-t'en chez nous, viens-t'en chez nous. Il faut que tu te décides parce qu'elle est à Montréal. Mm. Sinon, tu restes là parce que c'est parti, là. Mm. Et elle me dit finalement, ben, j'ai une levée de fonds pour telle affaire, je m'en vais au chalet avec telle. Bon, écoutez, finalement, elle revient au bout de tout ça. J'ai une fille, je lui dis, bon, ben là, OK. On croit que c'est elle qui l'aurait peut-être ramenée. Bon, ben bref, moi, ça commence par une grande fatigue. Elle n'a pas de symptômes à son retour. Puis là, je me dis, oups, ça y est, il y a quelque chose qui se prépare. J'ai jamais eu ça comme ça, là. Fait que je me mets en isolement. Ma fille commence, elle, à avoir des symptômes. Ça dure à peu près 9 jours que je suis en isolement chez moi, dans ma chambre. Ou à peu près de la 9e journée. J'ai passé un test de COVID. J'avais pas le résultat. Au bout de la 9e journée environ, là, mon système a comme lâché mon système immunitaire. Puis je faisais de la fièvre, ça faisait 9 jours. On avait appelé le 811 à 2 reprises. On me disait restez chez vous, c'est la consigne qu'on a. Mm-hmm. Au bout de 9 jours, je commence à avoir des vomissements, de la diarrhée. J'étais dans un état où je me disais si on me prend pas en charge, là, ben je veux l'aide médicale à mourir. Fait que je disais, ma fille, appelle mon médecin.
Oh mon Dieu, c'était raide, là.
Ah oui, je disais à ma fille, appelle mon médecin, puis dis-lui que s'ils peuvent pas, ils me disent restez chez moi. S'ils peuvent pas me soigner, je veux de l'aide pour mourir, parce que je suis vraiment au bout. Puis moi, je suis quelqu'un de très, comment je dirais, très solide à mon corps.
Mais vous deviez être vraiment, vraiment malade, là, Rachel, pour
vraiment
penser
malade.
Ça, là.
C'est la première fois que j'en parle en public comme ça, parce que j'entends tout ce qui se passe, puis je peux pas croire. Ben en même temps, je le crois dans le sens que la communauté a pas été affecté tant que ça encore. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas quelqu'un qui l'a eu. Ceux comme moi, mon entourage, a plus peur peut-être que la majorité des gens parce qu'ils m'ont vu aller dans ça.
Mm-hmm.
Écoutez, fait que cette journée-là, je vais essayer d'en faire une histoire courte, mais cette journée-là, là, je dis à ma fille, c'est la dernière fois que tu appelles le 811. S'ils viennent pas me chercher en ambulance, s'ils ne me soignent pas, ben c'est ça. Je demande l'aide médicale à mourir, bref. Puis elle a appelé le 811. On lui a enfin passé une infirmière qui lui a dit là, t'appelles l'ambulance, faut qu'ils viennent la chercher, là. Ta mère est vraiment mal en point. Fait qu'on a appelé l'ambulance, qui a pris 6 heures à arriver parce que, écoutez, je critique même pas le système, même le 811, c'était des gens qui répondaient, qui faisaient de leur mieux. On savait pas encore les symptômes. Êtes-vous essoufflé? Ben, je disais, écoutez, ma chambre est à côté de ma salle de bain. C'est le trajet que je fais depuis 9 jours. Je sens pas d'essoufflement. Je pense pas. Tu sais.
Et là, rapidement, parce qu'on doit vraiment aller à la pause, puis je veux quand même conclure avec le docteur Lucier. Là, vous avez fini intubé aux soins intensifs?
Ah oui. Là, l'ambulance m'a amené. On m'a changé de secteur. On m'a envoyé à Le Gardeur, qui était le centre pour la Naudière. Moi, j'arrivais là, puis le soir même, on m'intubait.
Oh,
j'arrivais pas, je mourais.
Combien de temps que vous restez là?
Ils m'ont plongé dans le coma pendant 10 jours.
Oh mon Dieu,
je me suis
retrouvée
au bout de 10 jours, puis je me suis fait dire par le médecin que vous avez passé à 2 doigts de la mort. Puis là, ben ça a été, je me suis réhabilitée chez moi, en recommençant à marcher. Fallu que je réapprenne à marcher. J'ai eu des maux d'estomac pendant des mois. C'est en train de partir. Je faisais des cauchemars comme une post-traumatisée. C'était une histoire. Ceux qui n'y croient pas, je vous dis. Puis en face de moi, il y avait un jeune garçon de 28 ans, un athlète de couleur noire, là, un jeune garçon. Quand je me suis réveillée, j'ai vu ça. Là, en tout cas, ça me
fait vraiment mal à la vie, là. Vous reveniez à la vie.
J'espère. Fait que ceux qui pensent aussi que les jeunes ne sont pas touchés, les jeunes peuvent être touchés.
Ouais.
Puis vos parents qui sont même en forme. Moi, écoutez, j'étais en forme. Je me faisais dire des fois, t'es en forme plus que bien des jeunes de 30 ans.
Ouais. Hey, Rachel, votre témoignage est incroyable. C'est ça que je voulais qu'on entende ce matin. Merci beaucoup. On va aller à la pause. Docteur Lucier, ça va être après. Il va réagir à ça. Vos commentaires également. À tout de suite, tout le monde. Le docteur David Lucier, gériatre à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, lui-même a eu la COVID, sa famille aussi, et il nous témoignait de ça tout à l'heure avec beaucoup de détails. Où justement, docteur Lucier, vous nous avez dit que finalement, c'est très imprévisible comme maladie. On la compare à tort à l'influenza. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, arrêtez donc, là, il y a plus de gens qui meurent de l'influenza aujourd'hui que de la COVID. Est-ce que c'est vrai d'abord?
Ben non, ça c'est faux.
Bon,
ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a des gens qui meurent de l'influenza aussi à chaque année, mais les décès là, dus à la COVID sont plus importants que ceux de l'influenza. L'autre chose qui est très difficile avec cette maladie, c'est qu'habituellement, si on a, par exemple, l'influenza ou une autre infection, On sait que les premiers jours sont difficiles et qu'on va s'améliorer. La différence avec la COVID, c'est qu'on est bien les premiers jours et que c'est on en entend plusieurs, là, d'ailleurs, votre invité avant l'a dit aussi.
Rachel,
plusieurs
ouais.
personnes étaient très, très bien et ils se réveillent le 10e jour ou le 7e jour. Ils ont de la difficulté à respirer. Le soir, ils sont intubés et parfois le lendemain, ils sont décédés. Donc, même quand on est malade, même si on va bien, jusqu'à 14 jours après notre diagnostic, on n'est jamais certain si on va être encore vivant le lendemain. C'est ça qui est très, très, très difficile à vivre, cette période-là, là, de 10-14 jours en attendant que de savoir qu'on était guéri.
Et ce dont on se rend compte aussi aujourd'hui, parce qu'on en apprend chaque jour plus sur ce virus, c'est que chez le tiers des gens atteints, chez le tiers des personnes qui ont eu la COVID, donc, il y a on garde des séquelles. Les séquelles restent chez le tiers des gens qui ont été atteints par la COVID-19.
C'est ça, il y a beaucoup de fatigue. Parfois, c'est difficile de savoir est-ce que ces séquelles-là sont vraiment dû à la COVID ou si c'est dû à n'importe quelle maladie. Quand on a une maladie aiguë, là, on sait que la perte d'odorat, entre autres, c'est quelque chose qui dure très, très longtemps chez certaines personnes. La toux, c'est quelque chose qui peut rester plus longtemps que 2 semaines ici. Mais ce qu'on voit surtout là, qui reste très, très longtemps, c'est la fatigue puis des troubles de concentration qui viennent avec.
Merci beaucoup, Dr. Lucier, d'avoir pris le temps ce matin. Dr. Lucier, gériatre. Donc, on a Guy, justement, qui est avec nous, un auditeur qui nous appelle parce que vous, Guy, bonjour, c'est votre conjointe qui l'a eu. Et justement, dans la catégorie « j'en garde des séquelles », elle en fait partie de ce tiers là, de patients qui ont eu la COVID et qui continuent d'avoir certains problèmes de santé.
Tout à fait. Bien, merci. D'abord, deux messages. Le premier, c'est que ceux qui attrapent la COVID présentent des symptômes qui peuvent être très divers. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé. Et les conséquences, les séquelles peuvent être très importantes et imprévisibles. Mm-hmm. On est arrivé à Mexico City fin janvier pour 3 mois. Mon épouse est dans la mi-quarantaine. Et jamais malade, jamais hospitalisée. Aucun souci de santé, jamais. Le 3 mars, elle démontre une grande léthargie, déshydratation, des éruptions cutanées, une toux sèche, une perte d'appétit, des douleurs musculaires, pas de fièvre et pas vraiment de difficultés respiratoires. On pensait à une mononucléose, on était allé voir un médecin. Fort heureusement, on était dans le meilleur hôpital privé de Mexico City. Mm. Elle était en situation d'acidocétose diabétique. Et ça veut dire que la glycémie est dans le tapis. C'est une situation très grave, mortelle, dans 25 à 35% des cas. Elle avait une infection au poumon droit de la grosseur d'une balle de baseball. Elle est entrée aux soins intensifs immédiatement. Elle y a passé 17 jours. Les 2 premiers, elle était seule là. Les 15 suivants, j'y étais avec elle dans la même chambre. Au 5e jour, son hémoglobine a chuté à un point où c'était quasi mortel. Mm-hmm. 2 transfusions sanguines ont été nécessaires. On est sorti au bout de 17 jours. À ce moment-là, à Mexico City, il n'y avait pas vraiment de tests disponibles. La COVID était une idée, un concept plutôt éloigné. Mais puisqu'il fallait rentrer au Canada immédiatement, il fallait passer des tests COVID. Il y avait des tests dans un laboratoire privé. On est allés. On a tous les deux passé le test un lundi matin.
Et vous étiez
positif.
Et
3 jours plus tard, elle était positive et moi, j'étais négatif. Et pourtant, j'ai passé 15 jours et nuits dans la même chambre avec elle.
Et on doit conclure là-dessus.
Oui.
Ouais. Peut-être le mot de la fin en une phrase, si vous vouliez résumer.
Les Illuminés qui n'y croient pas là, devraient se renseigner, au fond, c'est une question d'éducation, je pense, plus qu'autre chose.
Merci beaucoup, Guy, de votre témoignage. J'espère que votre conjointe va aller de mieux en mieux. On va s'arrêter ici. Après la pause, on va parler d'anxiété, on va parler de traumatisme aussi, surtout votre état mental en temps de pandémie. À tout de suite, tout le monde.